Réplique, histoire de couple, avec Michel Bauzon et Alexandre Pastel. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. Je résume la suite. Il arrive à ce téméraire volatile, une cascade de mésaventures, traînant l'aile et tirant le pied, il s'en retourne chez lui. Et voici la morale de la fable. Amant, heureux amant, voulez-vous voyager ? Que ce soit aux rives prochaines. Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Tenez vos lieux de tout, comptez pour rien le reste. Ce conseil de La Fontaine respecte-t-il la vérité de l'amour? Faut-il s'en inspirer ou s'en détourner? Est-il fiable ou funeste? Est-il enfin approprié à notre temps? Nous aborderons ces questions avec le sociologue Michel Bauzon, qui publie « Pratique de l'amour », et avec Alexandre Pastel, dont le dernier roman s'intitule précisément « Les deux pigeons ». Ces deux pigeons contemporains, Dorothée et Théodore, présentez-les-nous, Alexandre Pastel. Qui sont-ils et quelle est leur vie ?
Ce sont deux jeunes gens, ils ont entre 20 et 30 ans. Ils appartiennent au ce qu'on appelle les classes moyennes. Dorothée est enseignante, elle enseigne l'histoire dans un collège, tout en essayant de faire une thèse sur Guy Mollet.
Sur la politique économique de Guy Mollet.
Exactement.
Ce qui n'est pas un sujet très passionnant au premier abord, très sexy, comme on dirait vulgairement.
Voilà. Théodore, de son côté, un statut social plus fluctuant, il enchaîne les CDD, et au moment où commence le roman, il est webmestre à temps partiel.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement, webmestre ?
Il est en charge d'un site internet pour une administration publique. Le roman débute non pas par leur rencontre ou par les commencements de leur relation, mais au moment de leur installation, leur emménagement dans un espace commun, le 1er avril 2005. Et nous les suivons pendant une dizaine d'années dans leur vie quotidienne. L'objet du roman, c'est d'inscrire la relation amoureuse dans l'espace et dans le temps de la vie quotidienne. Et nous les voyons, durant ces quelques années, s'adonner à diverses pratiques, se choisir différentes valeurs, essayer de vivre.
Essayer de vivre. Alors, pourquoi ce titre ? Et d'ailleurs, en exergue du livre, il y a la morale de la fable que j'ai citée tout à l'heure. Pourquoi les deux pigeons ? Parce que chez La Fontaine, c'est amant, heureux amant. Et puis là, on ne peut pas dire que cette vie réponde tout à fait à la définition de La Fontaine. Alors, est-ce une exergue ironique ?
Oui et non.
Alexandre Pastel.
Il me semble qu'il y a dans ce couple, l'élan qui anime ce couple, dans son aptitude à se concentrer sur soi-même, soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau, une manière d'appliquer, de suivre le conseil de La Fontaine. Donc, non, en un sens, c'est un couple lafontainien, peut-être, et puis c'est un couple qui dure, c'est un couple qui résiste. Il est vrai que d'un autre côté, le terme de pigeon a aussi une connotation ironique. Ils sont enclins à se faire pigeonner aussi, ces deux jeunes gens. Ils sont un peu naïfs dans leur...
Il est vrai qu'ils essayent de pimenter en quelque sorte leur existence à travers toute une série d'activités, de tocades successives. Ils essayent la gastronomie, puis une diététique plus rigoureuse, puis ils s'adonnent à la marche, puis au sport, enfin ils essayent l'écriture. Ce sont un peu comme deux Bouvard et Pécuchet de la conjugalité.
Oui, c'est ça. Oui, absolument, oui, Bouvard et Pécuchet, et d'ailleurs un grand livre sur le couple.
Oui, voilà. Alors, est-ce que Michel Bauzon, dans dans cette trajectoire, vous reconnaissez cette pratique de l'amour que vous avez étudiée en sociologue?
Ah ben, c'est en tout cas un des rares... enfin, il y a peu d'œuvres qui osent aborder l'amour dans la vie conjugale, se poser le problème dans la mesure où il est entendu que c'est hors sujet, d'une certaine manière, que on n'en parle plus. Dès que les débuts sont passés, le temps des amours flamboyantes est passé, c'est quelque chose de bien plus terne. Et donc, ce livre-là aborde la question et parle, en parlant du présent, uniquement du présent de ces deux personnages, dont on n'arrive jamais à reconstituer le passé, puisqu'il y a un mystère sur leur rencontre. Hein. On suggère que peut-être ils se sont rencontrés par Internet et que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas en parler. Ça serait pas assez romantique. Hein. Bon, donc je confirme que c'est quelque chose, en effet, qu'on tend à taire quand on s'est rencontré par Internet. On n'en parle pas trop. Mais je dirais que c'est assez extrême. Ils sont dans un présent absolu, au sens où ils n'évoquent même jamais leur passé amoureux. Et ça, au contraire, c'est quelque chose dans les analyses que j'ai pu faire avec de la littérature ou des œuvres sociologiques qui est présent. C'est-à-dire qu'on évoque son passé amoureux. C'est quelque chose qui vous permet de célébrer quelque chose. Et là, c'est totalement absent.
Alors, mais en même temps, il y a quelque chose de présent, et je vous demanderai à Michel Bouzon si cela compte aussi dans la vie conjugale de manière générale que vous avez étudiée. Ce qui est présent, c'est le passé des parents. C'est-à-dire, on ne sait pas comment Théodore et Dorothée, étrange anagramme, se sont rencontrés, mais ce qu'on sait, c'est ce qui s'est passé entre leur père et leur mère respectifs. Cette belle rencontre romantique des parents de Dorothée, telle que le père la décrit, il voyage en avion, elle est hôtesse de l'air, et il décide qu'elle sera sa femme dans le ciel islandais.
Qu'elle sera la mère de ses enfants.
La mère de ses enfants, oui, absolument. Sauf que ça tourne mal, l'enchantement se dissipe très vite. Et son père est un coureur, et sa mère n'a pas cessé de souffrir. Quant aux parents de Théodore, c'est le père qui est parti. Le père, et ça a une certaine importance sur laquelle nous reviendrons, était un gauchiste. Il est allé quelque part créer une ferme, je crois. Enfin,
vers l'Ardèche.
Dans l'Ardèche. Et puis, il était à la fois dévoué à la cause et très, très égoïste. D'où ce souci qu'ils ont de réussir la vie amoureuse, parce que leurs parents ont raté la leur. Et je crois que ça, c'est très important. C'est-à-dire, il survit quelque chose dans nos sociétés de l'amour romantique, c'est une idée qui reste très forte, et en même temps, il y a chez beaucoup de gens une certaine inquiétude, voire une certaine désillusion préalable, parce qu'ils ont vu autour d'eux, jusque dans leur propre famille, des amours s'effondrer, des amours ne pas tenir le coup. Et ça, je crois que c'est une situation contemporaine, qui distingue notre contemporanéité du romantisme originel, du romantisme innocent, Alexandre
Postel. Peut-être aussi parce que le couple est devenu une forme de vie à part entière en un sens relativement indépendante de la famille, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant, traditionnellement. Donc le couple devient une sorte d'aventure à deux et qui, n'étant plus forcément inscrite dans le temps long de la famille et du tabou du divorce et de la séparation qui a longtemps prédominé, devient, depuis une cinquantaine d'années, une sorte d'aventure à haut risque et où les catastrophes, effectivement, sont très fréquentes.
Oui, c'est-à-dire que qu'il est beaucoup moins relié à l'institution, comme on dirait, hein, au mariage notamment. Les deux personnages ne se marient pas et bon, il y a une vague fascination de de Dorothée pour le mariage à un moment donné, mais autrement ils sont pas très travaillés par l'idée du mariage. Et donc c'est vraiment leur engagement personnel qui compte, qui fait exister ce couple parce que les institutions n'aident pas. Elles ne sont plus,
elles
ne sont plus dans la course. Hein.
Mais justement, est-ce que les cas que vous avez étudiés vous ont amené à penser que les gens partaient dans la vie avec ce mélange d'espoir dans l'amour toujours, etc., et d'inquiétude, voire de désillusion, parce que ils voient autour d'eux les couples mourir, s'étioler, se défaire de manière extrêmement fréquente et rapide. Est-ce que ça compte dans la vision de l'amour des couples contemporains tels que vous les avez étudiés, Michel Bozon ?
Absolument. C'est-à-dire que cette idée d'inquiétude... c'est-à-dire d'inquiétude en observant l'autre, en s'observant soi-même, puisqu'en fait, on s'observe beaucoup, on réfléchit beaucoup à ce qu'on fait, au sens de ce que fait l'autre. Et dans la mesure où on n'a pas de garantie sur un futur, qu'on a des inquiétudes, on a des exemples, l'inquiétude est présente, je dirais, même dès les débuts amoureux. C'est-à-dire qu'un SMS auquel on ne répond pas assez vite... par exemple, dans les tout débuts amoureux, et c'est déjà une inquiétude. Pour moi, c'est consubstantiel, l'inquiétude.
Oui, mais c'est pas la même inquiétude, parce qu'on peut être inquiet de l'amour de l'autre. Mmh. Est-ce qu'il m'aime autant que je l'aime? Vous dites qu'il y a une remise de soi à l'autre dans l'amour, et en même temps, il y a une emprise, les deux. C'est-à-dire, on se remet à l'autre, mais on exige la réciprocité.
Absolument.
Mais je parle d'une inquiétude d'un autre type. Ce sentiment est très fort et on craint chez soi comme chez l'autre son obsolescence. On la craint parce qu'on l'a vu et parce qu'on l'a lu aussi quand même un peu dans la littérature. Est-ce que cette crainte fait partie, si vous voulez, de la nouvelle conjugalité?
J'en suis absolument certain. J'en suis absolument certain que ça en fait partie. Je dirais qu'on est même entraîné à observer tous les signes de cette obsolescence avant même qu'elle arrive.
Voilà.
C'est quelque chose de typique des magazines féminins, de vous apprendre à observer ce qu'il se passe d'inquiétant dans votre couple. Donc, bonjour, la tranquillité. De fait, la crainte, c'est d'observer des signes d'éloignement, les observer, une prise de distance, le fait que, d'un coup, le don à l'autre n'ait plus aucune valeur. Qu'on se mette à faire les comptes d'une certaine manière. Je me suis livré, je me suis donné, et en fait, ça n'a servi à rien. Ce qui montre qu'il y a toujours, malgré tout, un aspect de calcul dans l'amour. C'est un don de soi où on attend quand même une sorte de réciprocité. Et quand on ne l'observe pas, mais on est déjà entraîné à penser que peut-être on ne va pas l'observer.
Alexandre Postel, justement, dans le couple que vous étudiez, y a-t-il une expérience du désamour, pour reprendre une expression de Michel Bozon dans son livre, puisque Michel Bozon lui consacrait même un chapitre au désamour, et si oui, comment font-ils pour la conjurer ?
Oui, il y a peut-être une expérience du désamour vers la fin, dans les derniers chapitres. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans le livre de Michel Bozon, c'est la manière dont le désamour est présenté comme une phase, comme dans un système électrique où il suffit, le courant ne passe pas toujours, mais ça peut néanmoins s'être relancé. C'est-à-dire que le désamour n'est pas définitif, mais est une phase, dans un processus énergique très étrange. Et il y a une expérience qu'on pourrait qualifier, d'une expérience de désamour, mais qui se renverse à la fin, ce qui permet de donner au roman une forme de fin, non pas forcément heureuse, mais douce, amère. Elle se renverse par la distance, justement, par la distance et par la communication, à l'occasion d'un échec. Oui, c'est ça, plus précisément. Échec, oui. À l'occasion d'un échec. C'est assez intéressant parce que le personnage de Théodore, justement, à l'occasion de cette expérience de désamour, est saisi par l'ambition. Il convoite un poste mirifique, qui consisterait à rédiger le compte Twitter de l'Élysée. Saisi par cette ambition, il s'éloigne de Dorothée et il échoue dans sa quête. Et c'est à l'occasion de cet échec que, d'une certaine manière, la scène est relatée du point de vue de la femme qui est d'autant encore plus déçue, affligée, attristée par cet échec que si c'était le sien propre. C'est-à-dire que l'échec de l'autre, dans cette entreprise que pourtant elle condamnait et qui lui semblait l'éloigner d'elle-même, l'échec de l'autre la rapproche de lui. Et on rejoint ici cette dynamique étrange, assez opaque du couple, me semble-t-il, à la fois faite d'une forme de faiblesse et aussi de tendresse.
Et il faut quand même dire que cet échec lui est infligé par un personnage qu'on voit tout au long du roman, un de leurs amis. Ils assistent à son mariage. Et ce personnage réussit, lui, dans la vie. Il appartient à la gauche du gouvernement. D'abord, il travaille avec Strauss-Kahn. Il se retrouve au cabinet de l'Élysée. C'est lui qui fait cette proposition. Alors que la femme est allée le voir pour elle-même. Il dit, j'ai rien pour toi, mais pour celui dont il ne retient jamais le prénom, Théodore, en l'occurrence, il y aura peut-être un poste. Et effectivement, rien ne se libère. Il n'a rien fait, effectivement, pour eux. C'est un personnage qui est traité de manière assez satirique. Oui. Un type très, très content de lui. Et il se réconcilie un peu contre cet Antoine. Oui. C'est d'une certaine manière une sorte de bouc émissaire qui redonne, qui cimente leur couple et qui lui redonne vie. Oui. Il y a un peu de ça, hein, quand même. Oui, Michel Bozon, vous voulez intervenir.
Ce qui est intéressant, c'est la scène par SMS interposée. C'est-à-dire que le contact est repris par des SMS. Hein, oui. Bon, donc une sorte de jeu de ping-pong qui mime un peu les débuts amoureux, qui ressemble beaucoup justement à ce style d'échange-là.
Hein, bon, il renoue avec la force ludique de la communication amoureuse.
Oui, mais alors, justement, il y a quand même, La Fontaine dit, tenez-vous lieu de tout. Et c'est là qu'on peut se demander si c'est un bon conseil. Là, j'ai sous les yeux la préface que Bernard Pingot a donnée aux mémoires de deux jeunes mariés de Balzac. Et il dit ceci, pour que l'amour tienne, s'assure, se développe, il faut qu'il trouve hors de lui l'étayage dont il a besoin. Une famille, des biens, une carrière, et on peut dire aussi le monde. Et notamment, et là j'en parle pour vous Alexandre Postel, parce que la politique, ça peut aider, c'est-à-dire, voilà, on peut avoir les mêmes ferveurs, ou on peut avoir des discussions. Or, ces personnages appartiennent à, il me semble, à vous lire, une génération sinistrée. Marx, on connaît sa phrase, les événements historiques surviennent pour ainsi dire deux fois, la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. La farce était pour nous les 68ards, c'était quand même une comédie inventive, mais c'était une comédie, c'était du comme-si, hein, on jouait, c'était une pantomime révolutionnaire. Vous, c'est la troisième fois, c'est-à-dire, ça revient, mais c'est plus 68. C'est Indignez-vous une nuit debout, ce qui n'est quand même pas exaltant. Et puis, il y a un autre problème, et là, quand même peut-être plus profond, c'est le rapport, là encore, aux autres générations. Parce que 68, c'était une révolte contre d'une génération contre une autre. Révolte contre le père. Bon, là, le pauvre Théodore, eh bien, son père ne cesse d'approuver ce qu'il fait. Il va à la manifestation du CPE et il dit « c'est très bien, ça va te secouer ton apathie, ça va secouer ton apathie ». Et évidemment, ça bloque complètement Théodore, ça l'inhibe. C'est une douche froide. Et ça recommence avec Indignez-vous. On discute de cet opuscule. Et il y a une discussion d'ailleurs très intéressante dans le roman, une Dora qui a d'excellentes critiques à formuler. Mais là encore, le père l'encourage. Donc c'est un rapport aussi qui détruit la possibilité même de l'engagement, parce que c'est l'engagement, au lieu d'être de contester le père, est préempté par le père. Alors je me dis, cette génération, comment va-t-elle s'en tirer ? La politique ne peut pas lui servir d'aliment comme elle pouvait le faire à une autre époque, Alexandre Postel.
Oui, Indignez-vous, par exemple, c'est un livre qui est offert à Théodore par son père, un cadeau de Noël, avec cette petite dédicace, ce livre qui, j'espère, sortira votre génération de l'apathie. Oui, le phénomène que vous avez décrit est très exactement celui que je montre dans le livre. C'est par ailleurs une génération qui ils ont entre 25, 30 ans, et ils ont à peu près 25 ans en 2005. Ce sont des gens dont le premier contact avec l'histoire s'est fait sous les espèces de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire de la fin de l'histoire, ou de ce qu'on leur a présenté comme la fin de l'histoire, ce qui contribue aussi, en plus de cette surdétermination de l'engagement par le père que vous évoquiez, ce qui contribue aussi à fragiliser la conscience sociale et historique, politique des personnages, cette évaporation
oui, c'est ça.
De l'histoire.
Et donc une difficulté de nourrir leur amour avec la scène publique, avec le monde. Oui. On sent que chez eux, ils voudraient bien que ce soit là, mais ça n'est pas vraiment là.
Voilà, ils aimeraient bien être comme Sartre et Beauvoir,
voilà.
Ça ne colle pas. Et pour autant, je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement un mal pour le couple. Chez Balzac, dans les mémoires de deux jeunes mariés, l'amour qui s'autodétruit, c'est vraiment cet amour passion qui est évoqué,
oui.
Qui concerne l'une des deux jeunes mariées, cette espèce d'amour passion incandescent qui s'éteint à force, par sa propre combustion. En ce qui concerne Théodore et Dorothée, ils ne sont pas dans cette perspective-là. Ils sont dans l'amour, dans l'affectivité conjugale, dans cette autre forme de l'amour. Finalement, la politique, c'est aussi l'expérience telle que je la restitue dans le chapitre qui est consacré. C'est aussi une expérience encore du discours, c'est-à-dire de quelque chose de fatigant, de contraire à l'amour.
Ah oui. Donc pour eux, vous pensez que ça peut être une chance alors ?
Peut-être.
Peut-être. Mais en même temps, on ne les voit pas forcément comme des personnages chanceux. Vous, Michel Bauzon, pourquoi avez-vous intitulé votre livre « Pratique de l'amour » ? Qu'est-ce que c'est que ce mot de « pratique » ? Que veut-il dire ? Je vous pose cette question parce que j'ai lu tout récemment une interview d'Alain de Botton dans Libération, lequel a écrit un livre très intéressant, mi-essai, mi-roman, « Aussi longtemps que dure l'amour ». Et il dit que l'amour demande une compétence. Hein, une compétence, parce que oui, pas la passion, mais l'amour. Alors, ce mot de pratique de l'amour, que signifie-t-il ?
Je suis entièrement d'accord sur l'idée de la compétence. Il y a une compétence historique à l'amour, c'est-à-dire que on a appris historiquement à faire l'amour, et c'est un peu la raison du choix de la littérature comme un des éléments qui me permet de penser. C'est largement à travers la littérature qu'on a appris à codifier ce qu'est un comportement amoureux depuis évidemment l'amour courtois, mais toutes les autres mouvements littéraires comme la préciosité, le romantisme, le surréalisme, le libertinage nous ont appris à codifier, recodifier l'amour nous l'apprenons également individuellement par des livres, par des chansons, par des donc il y a toute une compétence en effet qu'on acquiert. Et puis l'époque actuelle, c'est aussi une époque où il n'y a pas qu'un seul amour dans la vie. Et de fait, la compétence, elle s'acquiert aussi de cette façon-là. C'est-à-dire que on n'est plus compétent la deuxième fois que la première.
Alors, on peut employer le mot compétence aussi à un autre sens, et ça va peut-être valoir également pour pour nos deux pigeons. Alain de Botton, dans ce roman-essai, raconte aussi l'histoire d'un couple, une rencontre, un mariage, entre un homme d'origine libanaise et une femme écossaise. Ils vivent à Édimbourg, et puis ils ont des enfants, ce qui les différencie de nos deux pigeons. Et puis, il y a les difficultés. Il y a l'amour qui s'étiole un peu, qui n'est plus une passion. Comment faire face? Et on se rend compte que, d'une certaine manière, ils deviennent prêts pour le mariage, longtemps après qu'ils se sont mariés, 13 ans après, quand ils ont traversé des difficultés, et quand ils ont renoncé à certaines illusions romantiques. Il dit du personnage, s'il est prêt pour le mariage, c'est parce qu'il a renoncé à la perfection. Il ne demande pas que le couple soit parfait, ni que son aimée soit parfaite. Et le commentaire d'Alain de Botton, le pessimisme romantique d'un siècle éclairé présuppose simplement qu'une personne ne peut être tout pour l'autre. Voilà, c'est la réponse à La Fontaine. Nous devrions trouver des moyens de nous accommoder, aussi délicatement et aimablement que possible, des pénibles vicissitudes que comporte la vie aux côtés d'une autre créature déchue. Il ne peut y avoir que des mariages passablement bons. Une reconnaissance d'imperfection, de la finitude. Et en effet, on peut se dire que peut-être... Je ferai une objection tout à l'heure. Cette modestie est-elle nécessaire? Parce que si on fait du cœur la seule base de l'amour, alors il peut y avoir énormément de casse. Là, c'est quand même la face sombre de ce grand sentiment. Et le cœur n'y est plus, le désir n'y est plus, on s'en va, et peu importe les dégâts, les ravages que l'on peut connaître. Donc la modestie, c'est aussi le gage éventuel d'une certaine loyauté. Et est-ce que vous pensez que les deux pigeons, d'une certaine manière, nos deux Bouvard et Pécuchet, ont appris à être modestes?
Oui, je pense qu'ils le sont d'emblée. Ils sont voués à la modestie par leurs expériences, par leur corps, quelques expériences assez précoces de l'échec et de la désillusion. Cette modestie, elle va aussi de pair avec l'humour. Enfin, c'est aussi la condition de l'humour. C'est la reconnaissance de l'imperfection de l'autre qui permet une forme d'ironie, de distance, d'humour. Et j'étais amusé d'ailleurs en lisant votre livre, Michel Vauzon, de constater qu'en fait, j'avais emprunté sans le savoir une image à Albert Cohen. Lorsque l'activité sexuelle, l'extase de l'amant qui se démène est comparée dans Belle du Seigneur à Adrien II, mais comparée à un Pékinois.
Oui.
Hein, voilà. Un Pékinois qui s'agite. Et j'ai repris, sans le faire exprès, une image très similaire dans le chapitre des deux pigeons consacré à la sexualité, où Théodore apparaît à Dorothée sous les espèces comme ça, un peu canines. Ces deux pigeons, en tout cas, sont très conscients de leur imperfection, et c'était pour moi la porte ouverte à l'ironie, au traitement ironique du couple, parce que le couple...
Livre est parcouru d'une ironie discrète.
Oui.
Voilà ce qu'on peut dire.
Continue. Le couple, c'est quand même quelque chose qui est à la fois... Quand on regarde un couple de l'extérieur, on a quand même souvent un sentiment assez aigu du comique qui émane de ces deux personnes, de cette espèce d'entité bicéphale un peu étrange qui dit nous à tout bout de champ, qui présente quelque chose d'un peu risible. Père et mère Ubu ne sont jamais loin quand on regarde attentivement et longtemps un couple. Donc il y a cette face un peu...
Pourquoi père et mère Ubu? Moi, ce qui peut faire peur dans certains couples, c'est leur caractère gémellaire. C'est quand les couples forment des entités.
Oui.
Le nous devient l'individu. Voilà, c'est terrible. C'est ça que vous voulez dire?
Oui, c'est ça. Ce redoublement, père Ubu, mère Ubu, Théodore, Dorothée, Bouvard, Pécuchet, cette espèce de complémentarité un peu effrayante, vaguement grotesque.
Quand les couples sont compacts, c'est quelque chose d'effrayant.
Qui est propice à la fois c'est le lieu de la tendresse. C'est là que peut se développer cette authentique relation amoureuse. Et en même temps, simultanément, c'est un spectacle pour l'ironiste.
Michel Bozon.
Une des questions que je me posais, c'était justement où était l'amour dans un couple installé ? Parce que il existe en effet des représentations très ironiques de la routine conjugale, mais la routine peut avoir bien d'autres noms. Hein. C'est Claude Habib aussi le dit, c'est de la prévisibilité. Et la prévisibilité, c'est ce qui se passe quand on devient amoureux, c'est que on se met à connaître l'autre. Hein. On l'a bien cherché d'une certaine manière. Mais où se trouve l'amour quand on a créé un domaine commun qu'on occupe, dans lequel on a ses habitudes? Pour moi, il y a forcément des moments faibles et des moments forts. Et en effet, on peut bien se moquer des moments faibles, hein, qui sont bien plus fréquents que les moments forts. Et les moments forts, c'est des moments de connivence extraordinaire qui apparaissent même dans votre roman. Par exemple, on voit qu'à un certain moment, ils sont en visite chez un couple qui a l'air très heureux dans la banlieue de Rouen, oui, semble-t-il, et qui met en scène son bonheur. Et il y a une sous-conversation, comme dirait Nathalie Sarraute, entre les deux pigeons, qui dit exactement le contraire, c'est-à-dire cette transmission de pensée. Ça, c'est une manifestation amoureuse, hein, c'est-à-dire ce genre de connivence malgré tout. Alors, ce que j'aurais attendu, c'était une idéalisation du passé amoureux. Ça fait aussi partie, une idéalisation secrète, avec des, mais qui n'est pas du tout présente. Mmh. Et voilà, c'est ce qui me perturbait un peu, qu'il soit sans passé amoureux.
Alexandre Ostel, vous voulez répondre?
Oui, sur cette question.
Cette interpellation.
Oui, parce que, en fait, c'est leur part de... Enfin, quand j'indique dès le début du roman qu'ils ne précisent pas, quand ils ne disent jamais comment ils se sont rencontrés, cette espèce de ce silence, en fait, qui enveloppe leur histoire d'amour, ça a plusieurs fonctions, je pense, pour moi, dans l'écriture du livre. C'est d'abord une manière d'alerter le lecteur, de lui dire, bon, vous ne trouverez pas ici d'histoire d'amour. C'est une manière aussi de ménager pour ces deux personnages une forme de mystère, de pudeur, de silence, alors que rien ne nous sera épargné par ailleurs de leur vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on regarde à la télé, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, etc. Donc aucune de ces trivialités ne nous sera épargnée, mais demeure du coup ce mystère de l'origine, qui est une manière de réintroduire une forme de, voilà, de mystère, et puis de favoriser peut-être aussi, enfin de suggérer que ce sont des sortes de personnages un peu, des types. Voilà, c'est un couple installé, et d'inviter le lecteur à s'y projeter peut-être.
Mais
s'il en a
en même temps, il y a un soupçon étrange qui naît chez le lecteur de votre livre, Alexandre Postel. Une sorte d'hypothèse scabreuse et même scandaleuse.
Ah.
L'époque est assez médiocre, hein, telle que vous la décrivez en tout cas. Et le livre est flaubertien, dans son ironie, et ce sont donc des vies un peu médiocres. Cette thèse sur la politique économique de Guy Mollet, ça n'a pas de sens, elle ne s'y intéresse pas, elle s'endort dessus, elle la fait plus, etc. Webmestre, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, ça ne nourrit pas une existence, on ne rentre pas à la maison en racontant ce qu'on a fait, en plus il reste chez lui, etc. Et tout d'un coup, notre sensibilité démocratique est comme heurtée par une intuition étrange. Est-ce que l'amour, le bel amour, ne demande pas, sinon des êtres d'exception, du moins des individus au-dessus de la moyenne? On se dit, mais peut-être n'est-il pas donné à tout le monde d'aimer dans la plus haute acception du terme. Le romantisme nous a appris que l'amour était la plus haute expérience humaine, mais ne faut-il pas des qualités particulières pour monter à cette hauteur ? Ah, ça, c'est une hypothèse qui tient à l'ambiance flaubertienne du livre. Alors, qu'en pensez-vous ? La récusez-vous ? Voilà. Elle m'est venue presque malgré moi, hein, Alexandre Postel.
Je dirais que c'est C'est une question qu'on peut se poser à la lecture du livre, oui. Mais je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à cette question. Vous me la présentez, là. Je suis un peu incertain quant à la réponse à proposer. Parce que, oui, il y a ce côté dégradé, cette banalité, une forme de bêtise qui caractérise ces personnages. C'est indéniable. Mais... pour autant, sont-ils vraiment incapables d'amour? Est-ce que, au fond de leur bêtise, d'une certaine façon, il n'y a pas une forme d'authenticité qui serait celle du sentiment amoureux, tout comme le personnage flaubertien, puisque vous m'invitez à la comparaison, tout comme le personnage flaubertien, finalement, au fond même de sa maladresse, de sa gaucherie, de sa mesquinerie, éventuellement, si on pense à Frédéric Moreau, par exemple, dans Éducation sentimentale, ou à Bouvard et Pécuchet dans leur quête du savoir absolu, est-ce que ces personnages-là n'atteignent pas... au fond même de la bêtise ou de la médiocrité, une forme de grandeur. Est-ce que c'est absolument incompatible? La quête est maladroite, certes, mais l'élan est authentique.
Vous seriez d'accord, Michel Bozon?
Moi, j'aurais une hypothèse aussi, c'est-à-dire que de la comparaison avec Bouvard et Pécuchet le dit bien, c'est comme un roman quand même des engouements, hein, c'est-à-dire que c'est une série interminable d'engouements, oui. mais à travers ces engouements, peut-être que de façon dégradée, on pourrait voir un effort de découverte de soi-même. Hein, mais c'est-à-dire d'une forme dégradée, modeste, l'idée qu'on va découvrir quelque chose d'absolu. Cet absolu se révèle un petit peu décevant à chaque fois, pour pas dire désastreux, hein, puisque on s'aperçoit par exemple que même pour des végétariens, les plantes souffrent. Hein, bon, donc, et que ça rend insupportable même le fait d'être végétarien. Je dirais que c'est un roman de nouvelles découvertes, mais de nouvelles découvertes immobiles. Et c'est en ça que c'est comme les pigeons de la fable. Hein. C'est-à-dire que...
Découverte mobile, mais découverte toujours immobile. Un peu ridicule.
Oui, c'est ça.
Que, notamment quand ils choisissent une nourriture diététique, à un moment donné, le magasin chez lequel ils se fournissent ne leur offre à manger que des salsifis, ils en peuvent plus. Et l'un des adhérents à leur association leur dit que c'est pas bien de se comporter comme ça, libre à eux s'ils souhaitaient de rendre leur carte, quant à lui, ils n'en feraient rien. Et il a cette phrase quand même admirable, car depuis que je mange tous les jours des légumes qui ne viennent pas du supermarché, mon caca a changé de couleur et d'odeur. Donc on est quand même invité à s'amuser de leur toccade successive, et puis à prendre acte aussi de leurs insuffisances, puisqu'ils veulent écrire et ils n'écrivent pas. Donc on est quand même là renvoyé à cette médiocrité dont je parlais tout à l'heure. Michel Bozon.
Ceci dit, cela nous fait rire un peu jaune, hein, car on découvre toujours là-dedans un engouement qu'on a eu. De fait, je riais de bon cœur en vous lisant, et bon, à un certain moment, je me suis dit aïe aïe aïe. c'est pour ça, c'est un livre qui piège un petit peu le lecteur aussi, hein, je trouve. Hein. Bon.
Alors, en même temps, je voudrais quand même aussi formuler une autre hypothèse que celle de la. Une autre possibilité, pardon, que celle de cette modestie nécessaire, hein, reconnaissance que voilà, il n'y a pas d'amour parfait, c'est au-delà du romantisme. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le paradoxe de notre situation. Nous partons dans la vie avec l'espoir d'aimer et sans illusion particulière sur l'amour, notamment quand nous lisons des livres. Hein. Je vais vous en citer un. Arrive Kureishi, quelque chose à te dire. Kureishi, c'est un auteur de livres qui sont très lus, de best-sellers même. C'est un grand écrivain, auteur de best-sellers. Et voici ce qu'il dit au début d'un couple. Nous étions restés ensemble parce que nous partagions le même plaisir à vivre avec le gamin, parce que je redoutais les années de dîner en tête-à-tête avec la télé, et certaines fois nous aimions le problème mutuel que nous représentions l'un pour l'autre. Ça, c'est un peu vrai de nos deux pigeons. Ils aiment se disputer. Ils aiment se disputer, et même se disputer en public. Hein. Mais à la fin, on ne pouvait plus marcher dans la rue sans être chacun sur un trottoir, à s'envoyer nos reproches à la figure. Tu ne m'aimais pas, tu étais vraiment injuste. La rengaine habituelle, vous n'avez aucune envie de l'entendre, mais vous n'y échapperez pas, vous verrez. Et on entre dans la vie comme ça. On n'a aucune envie de l'entendre, mais on se dit qu'on ne va pas y échapper. Or, quand même, il arrive qu'on y échappe. Il arrive un phénomène inverse à celui qui est décrit dans les romans, les illusions perdues. C'est le phénomène de la désillusion perdue. C'est-à-dire, on se dit, ben, ça va pas durer, ça s'étiole. Les sociobiologistes, même, que vous citez, vous expliquent que ça s'éteint, que ça s'étiole. Ils ont, je sais pas, les endorphines, ou je sais pas, ben, je sais pas de quelle telle substance ils parlent, mais ils sont très sûrs d'eux. Eh bien, non. Miracle, l'amour tient bon. L'enchantement dure. L'enchantement véritable. Et je veux dire, mais ça arrive aussi. C'est pas du tout l'expérience des deux pigeons. C'est une expérience peut-être très difficile à traduire en roman. Comment traduire les désillusions perdues? On peut pas analyser un miracle, enfin, écrire un roman sur un miracle. Mais on ne peut pas non plus exclure cette possibilité de l'éventail des pratiques amoureuses. Michel Bozon.
Mon idée est que une relation qui dure est basée sur beaucoup de moments de basse intensité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément considérer comme étant de l'amour avec l'intensité qu'on attache à ce sentiment. L'idée qu'il y aurait une intermittence de manifestations amoureuses dans un univers de basse intensité où il y a un domaine commun qui est partagé avec des moments agréables mais pas forcément amoureux, et que de fait peuvent surgir des choses qui sont d'un ordre très différent de temps en temps, pas tout le temps. Que c'est ça les manifestations amoureuses dans une relation longue durée, plutôt que quelque chose de proche de l'amour des débuts. C'est bien différent de l'amour des débuts, oui.
Alors, je vais vous faire une objection, si vous voulez, qui m'est soufflée par une parution toute récente. Les lettres à Anne, hein, de François Mitterrand. Ces lettres, elles ne nous étaient pas destinées. Il est donc très très gênant de les lire. Mais ça, c'est un autre problème. Hein. La disparition de la vie privée, c'est tout à fait autre chose. Nous les lisons. Et l'intensité est constante. Alors, évidemment, ils ne vivaient pas toujours ensemble, c'est vrai. Mais la dernière lettre, du 22 septembre 1995, postée de Belle-Île, quelques mois seulement avant sa mort, Mitterrand malade, tu m'as toujours apporté plus, tu as été ma chance de vie, comment ne pas t'aimer davantage? Voilà comment se termine, voilà, ce sont les phrases sur lesquelles se termine cet énorme livre, parce que la correspondance a été très longue. Et là, on se dit, ben oui, ces choses comme là, c'est ça je voulais dire. Il y a ce que vous dites, les intermittences, mais il y a aussi, je crois, des enchantements durables. Ce qui n'est pas le cas des deux pigeons, Alexandre Postel.
Ils ne formuleraient pas leur enchantement dans les mêmes termes, mais je suis plus réservé sur l'absence totale d'enchantement amoureux dans ce livre. Alors peut-être que je suis dans une forme de déni ou de résistance, mais il me semble, moi, que justement, le propre de ces deux personnages, c'est de parvenir à créer une forme d'enchantement dans des occupations qui semblent triviales et insignifiantes, et qui sont à la fois, qui provoquent à la fois chez le lecteur, ou du moins chez moi, le sourire ironique, et en même temps une forme d'élan, d'enthousiasme, et singulièrement à la fin du livre, à la toute fin du roman, la dernière phrase annonce la perspective d'une vie nouvelle, pleine, et qui ne fait que commencer. On retrouve la même chose sous une autre forme que dans cette lettre que vous évoquiez, comment ne pas t'aimer davantage, cette projection dans un avenir. Cette aptitude de la conscience à se projeter, à former un projet de vie commune.
Oui, et de phrase en phrase, aussi sûrement, aussi doucement que le printemps reverdit la terre, c'était les phrases qu'ils échangent sur SMS, dont nous avons parlé tout à l'heure, ils se laissent gagner par le sentiment qu'une vie nouvelle s'ouvre devant eux, une vie pleine, aventureuse, et qui ne fait que commencer. La fin est un commencement. Donc c'est vrai, ça. Mais d'un autre côté, l'ironie est toujours présente, et il y a normalement ce très grand moment d'ironie, à mon avis, d'une justesse psychologique tout à fait remarquable. Vous parlez des séries, et des séries que l'on regarde en couple. C'est vrai, on regarde très rarement une série tout seul, et on se fait engueuler quand on la regarde tout seul. Et vous dites, vous avez cette phrase merveilleuse, la forme même de la série télévisée entretenait avec le couple une affinité secrète. Pourquoi, Alexandre Postel ?
Parce que ça commence, alors là il faut ça suppose d'entrer dans le détail de la production des séries, oui. Mais la série c'est une forme artistique qui commence sans savoir exactement comment elle va se terminer, ni si elle va durer, ni combien de temps elle va durer, puisque les réalisateurs, l'équipe qui produit la série doit proposer ce qu'on appelle un pilote, c'est-à-dire un premier épisode qui sera ou non acheté par la chaîne et qui sera ou non diffusé pendant un temps indéfini. Donc, de ce point de vue, il y a quelque chose dans la relation finalement de couple d'assez similaire. On sait quand ça commence, on ne sait pas comment ça va se terminer. Il y a donc et l'histoire se déroule comme ça, d'épisode en épisode.
Mais il y a aussi une autre affinité, ce fait que les couples adorent regarder les séries ensemble.
Oui, bien
ça,
sûr.
Ça, c'est quand même une chose que
il y a
Michel Bozon.
Apparemment aussi le fait que dans les séries, il y a beaucoup de choses modérément tragiques, mais enfin des séparations, des retrouvailles, et qui pour moi sont aussi un des modèles du couple, c'est-à-dire du couple installé, c'est-à-dire qui peut fonctionner en ne vivant pas ensemble. Hein, c'est pas le modèle des deux pigeons, bien sûr, mais peut-être le modèle de Mitterrand que vous citez. C'est-à-dire que ça donne une valeur particulière aux retrouvailles, aux séparations elles-mêmes qui en deviennent plus excitantes, au fait de penser à l'autre, dans la mesure où il n'est pas là en permanence. Donc c'est aussi un des éléments qui augmente l'intensité amoureuse. Hein,
Même dans les couples installés, parce qu'on se quitte le matin, on se retrouve le soir. C'est assez rare que l'on passe ensemble toute la journée à la maison.
Et ben voilà.
Et donc ça veut dire que ce sont des retrouvailles quotidiennes.
Exactement.
Avec l'intensité éventuelle des retrouvailles quotidiennes.
Ça peut être vécu comme ça. Dans mon livre, je cite un exemple d'ouvrier raconté par Italo Calvino.
Très belle histoire.
Qui vivent leur rencontre quotidienne en horaire décalé, avec de tout petits moments de recouvrement qu'ils essayent d'exploiter au maximum. Hein, il y a en effet cette possibilité de vivre le couple non pas comme une continuité, mais comme une discontinuité avec retrouvailles, séparation, intensification, etc.
Mais pourquoi, Michel Bozon, avez-vous choisi de clore votre livre « Pratique de l'amour » par un chapitre assez long d'ailleurs, et très consistant, figure du désamour. Est-ce que le désamour, c'est le dernier mot de l'amour ?
Non, pas du tout. C'est pas, et je ne dis même pas que toute histoire aboutisse au désamour, mais la pensée du désamour est toujours présente chez les amants. C'est un élément, c'est un terme qu'on imagine, c'est un danger, une inquiétude, c'est toujours présent. Et quand ça arrive, qu'on décide qu'on a assez donné, puisqu'en réalité c'est ça, on veut plus donner, eh bien ça peut être un moment pas forcément tragique, parce que notre époque est aussi celle des histoires qui ne durent pas toujours. Et donc il faut bien, si on veut se réengager dans l'amour, passer par une phase de désamour. Donc, je ne veux pas non plus être totalement hors époque avec l'idée d'un amour qui dure toujours.
Vous ne voulez pas être hors époque, mais dans la figure du désamour, votre plus belle citation, c'est encore Flaubert, c'est Madame Bovary. L'agacement du désamour. Ça, c'est présent d'ailleurs aussi, hein, il y a un moment d'irritation très forte dans Les Deux Pigeons. Mais ça, je ne peux pas me retenir de lire cette phrase. Parce que elle me montre que vraiment Madame Bovary est un des plus grands romans du monde. Mmh. Elle se sentait d'ailleurs plus irritée de lui. Elle, c'est Madame Emma Bovary, et lui, c'est Charles Bovary. Il prenait avec l'âge des allures épaisses. Il coupait au dessert le bouchon des bouteilles vides. Il se passait après manger la langue sur les dents. Il faisait en avalant sa soupe un gloussement à chaque gorgée, et comme il commençait d'engraisser, ses yeux déjà petits semblaient remonter vers les tempes par la bouffissure de ses pommettes. Emma, quelquefois, lui rentrait dans son gilet la bordure rouge de ses tricots, rajustait sa cravate ou jetait à l'écart les gants d'étain qu'il se disposait à passer. Et ce n'était pas comme il croyait pour lui, c'était pour elle-même. Par expansion d'égoïsme, agacement nerveux. On est saisi, c'est vraiment génial. Mais voilà, ça c'est quand même un des problèmes terribles du couple qui va mal. L'irritation réciproque, ou l'irritation de l'un contre l'autre. Cette espèce de dégoût qui s'insinue au cœur de la plus grande intimité. Mais... Et vos personnages le surmontent, finalement, Alexandre Postel.
Oui, ils y parviennent, eux.
Parce qu'ils traversent cette période d'irritation, et en même temps, ils vont au-delà.
Oui, parce qu'ils se parlent. Ce qui est intéressant aussi dans la citation de Flaubert, c'est ce divorce des consciences. Hein. Charles s'imaginant qu'elle fait ça pour lui, pour le rendre plus coquet, voilà. Alors qu'en vérité, c'est par expansion d'égoïsme. Donc il y a là un défaut de communication, de compréhension. Peut-être ce qui sauve les deux pigeons, c'est qu'ils croient encore à la parole.
Et puis peut-être aussi que c'est une irritation qui ne va pas jusqu'au dégoût. Alors que Madame Bovary, c'est déjà le dégoût quand même. C'est la forme paroxystique du désamour.
Oui, mais quand l'un s'éloigne, l'autre est obligé de le faire parce qu'autrement il devient lourd. Hein, et c'est ça la chose terrible. C'est-à-dire que l'amour et le désamour est réciproque. Comme l'amour.
Sauf chez Charles Bovary.
Ça, c'est plutôt la chose merveilleuse. Quand le désamour n'est pas réciproque, c'est là qu'il y a de la casse.
Ben oui. Hein, bon, ça fait bien partie de l'histoire de l'amour, quoi. Hein, mais je ne veux pas désenchanter.
Non. Vous ne voulez pas désenchanter. Et je ne pourrais pas. Ça a été l'émission du désenchantement. Et je vous remercie en tout cas pour cette discussion.
Merci.
Michel Bozon, votre livre s'intitule donc « Pratique de l'amour ». Il est publié chez Payot. Alexandre Postel, votre roman « Les deux pigeons » est publié aux éditions Gallimard. Ce roman n'a pas reçu de prix, et je ne voudrais pas désavouer les jurés Goncourt, Fémina, Renaudot, Médicis, mais je voudrais aujourd'hui lui décerner le prix Réplique.
Voilà. Merci beaucoup.
Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable pour toujours. La semaine prochaine, qui sera aussi l'année prochaine, l'émission aura pour titre « Le terrorisme en face ». Mes invités seront François Burga et Gilles Kepel. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Pierre Monteil. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.